Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma ya karim, rabbi zidna 'ilma ya karim, rabbi zidna 'ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quiconque donc est écarté du feu, c'est-à-dire du feu de l'enfer, et introduit au paradis à cette réussie. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Mes chers frères et sœurs, nous continuons le verset qu'on avait entamé hier, le ayah 186 de la sourate Al-Imran. On avait prévu de le faire hier, mais on s'était un petit peu étalé sur la notion de résurrection, de rétribution. Le verset que nous venons de lire et donc de réciter la traduction rappelle une réalité, c'est que le succès premier de l'homme, c'est, après sa création, vivre selon les ordres d'Allah pour être accepté par Allah le jour des comptes, accéder au paradis et donc éviter, être protégé du feu de l'enfer. C'est une équation très simple, c'est une équation basique. Allah t'a donné la vie et être vivant, le fait de naître, le fait d'exister, c'est déjà le premier ni'ma. Le premier bienfait qu'Allah nous accorde, c'est la vie. Avec la vie, il y a iman, la foi. Avec la foi, le deuxième bienfait qui vient juste après al-iman, c'est as-siha, c'est la santé. Et puis on peut citer al-afiya, le fait que tu sois bien, que tu sois protégé par Allah, que tu puisses avancer la famille, le travail et ainsi de suite. L'équation est très simple. Utiliser tout ce qu'Allah nous a accordé comme bienfait, comme ni'ma, les cinq sens, la santé, toutes nos facultés physiques, intellectuelles, mentales, tout ça, les utiliser fi ta'a de le droit chemin, en restant éloigné du haram, en espérant qu'Allah nous accorde la fermeté dans la foi, le tawfir d'accomplir les bonnes actions, la force de iman de rester éloigné des péchés, et cela durant toute l'année et jusqu'à notre mort, jusqu'aux derniers instants de notre vie. Et durant l'année, chaque année de notre vie, notre Seigneur Rabbul Izzah nous accorde une facilité, nous accorde la possibilité de nous rapprocher encore plus de lui. Bisharafi Zaman, en nous accordant des périodes sacrées, comme le mois de Ramadan, et plus encore la dernière décade qui s'approche, et les nuits impaires de la dernière décade, ou la période du Hajj, quand on va au pèlerinage, là on parle plutôt de Sharaful Makan, d'endroit, de lieu noble. Allah nous donne, on va dire, des possibilités, crée des circonstances pour nous, concernant le temps ou l'espace, pour que nous nous boostions encore, pour que nous avançons à pas de géant vers lui. Et donc l'équation est très simple, vivre selon les ordres d'Allah jusqu'au dernier jour de notre vie, afin que nous quittons ce dunya et qu'Allah soit satisfait de nous. Et là c'est un appel du cœur, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de considération, beaucoup de respect, de compassion, en essayant d'avoir ce même respect, cette même compassion que notre prophète alayhi salatu wa salam avait pour sa umma, pour sa communauté. Et ce message est à l'attention des personnes, mashallah, qui durant ce mois de Ramadan retournent vers Allah et décident de prier, d'écouter des rappels, de venir à la masjid. On voit, on constate, bifadlillahi ta'ala wa karamihi wa bihidayatihi azza wa jal, par la guidée d'Allah, les masajid, les mosquées sont 5 fois plus remplies en mois de Ramadan que durant les autres périodes de l'année. C'est une guidée qu'on a dit qui vient d'Allah Rabbul Izzah. Et à l'attention de tous ses frères et des sœurs qui, mashallah, essaient de faire des efforts durant le mois béni, mais qui, en dehors du mois de Ramadan, ont un peu plus de mal à s'accrocher à la religion, il faut être conscient que la pratique de la religion n'est pas liée à un facteur de temps. C'est vrai, en discutant avec des personnes qui ne viennent plus du tout à la mosquée, ben, la charge de Ramadan, après le mois béni, ils disent que dans le mois de Ramadan, il y a un madja, il y a un plaisir, il y a une ambiance. Il y a une ambiance, tout le monde est là, et ainsi de suite, il y a la rupture du jeûne à la mosquée. Oui, mais cette ambiance, le fait qu'il y ait beaucoup de gens, ben, c'est à toi de contribuer pour qu'il y ait d'une certaine façon cette ambiance toute l'année. Après, au-delà de la notion d'ambiance, retenons que nous avons un devoir envers Allah. Et ça, c'est une base. Je suis contre les gens qui font la petite morale, la morale bon marché, premier prix, avec des conseils qui prennent plus la tête qu'autre chose. Moi, je suis allergique à ce genre de propos, voilà quoi, les gens qui font la da'wa mais de façon maladroite, qui viennent en mode frontal juste pour tirer vos défauts, pour souligner vos manquements, pour dire que oui, ça qu'on fait les pas bons, les pas de le droit chemin, ou les musulmans, il faudrait, oui, le fond du message est clair, mais la da'wa se fait avec hikma. Et si la da'wa est basée sur kalamullah, la parole d'Allah, la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura assurément une lumière dans la da'wa qui va toucher les cœurs. Quand le Prophète a invité les mushrikin via le haq, c'était par le biais de versets du Coran. Quand Moussa bin Umair radiallahu anhu avait fait la hijra vers Madina, et que le Prophète l'avait envoyé à Madina comme émissaire pour propager la religion, pour propager l'islam, il invitait les mushrikin de Madina ad-da'watu bil Qur'an, par la parole d'Allah, parce que dans la parole d'Allah, il y a une lumière qui touche les cœurs, et les cœurs de toute personne douée d'intelligence et de conscience. Parce que c'est quelque chose qui touche directement les cœurs. Hada. Donc, pour revenir. Oui, j'ai dit qu'on met de côté la petite morale, les conseils un peu classiques, avec un ton de reproche, ce qui est parfois lourd et qui fait parfois plus fuir les gens que les ramener vers le haq. S'il y a un point, s'il y a un message que nous souhaitons faire passer à ce public qui se contente malheureusement de fréquenter la masjid et d'être assidu aux prières que durant le mois de Ramadan, il y a une seule chose. Personne ne vous surveille, personne n'a une quelconque autorité sur quiconque. Notre religion, c'est une religion de da'wa et de bons conseils. Et la salah, la masjid, et ainsi de suite, vous le faites pour Allah, et non pas pour le regard des gens. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, et j'aimerais que ça pénètre nos poitrines, concernant la salah, n'oublions jamais que le prophète, alayhi salat wa salam, nous a dit « Awwalu ma yus'alu anhu l'abdu yawm al-qiyamati min amali as-salah » Le jour de la résurrection, on a vu des versets sur la mort hier, on a vu des versets avant-hier sur la remise des livrets, les comptes, les actions. N'oublions jamais, et nous croyons bien sûr à la mort, au jour des Qiyamah, la résurrection, les comptes, n'oublions jamais que le Prophète a dit que la première chose à propos de laquelle chaque musulmane sera interrogé le jour de Qiyamah, c'est-à-dire interrogé avec une précision chirurgicale. Ce sera les salah, ce seront les prières. C'est-à-dire qu'on sera questionné, on va analyser chacune des cinq salah de chaque jour de l'année, chaque jour qui a composé notre vie de croyant et de croyante sur terre. Donc dès maintenant, nous devons nous préparer pour cet oral. S'il y a bien un examen, un jugement pour lequel nous devons nous préparer au maximum, c'est les questions concernant la salah. Et le Prophète me dit que celui qui répond correctement à la salah, celui qui avait donc fait ses prières sans manquer, le reste des comptes sera grandement facilité. Le reste des comptes sera facilité, les étapes vont se passer avec succès. Alors que celui qui bloque dès le départ pour la salah, il y a des manquements, le reste des étapes de l'au-delà seront de plus en plus difficiles pour la personne. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous donne la hidayah à nous tous d'être assidus à nos salah. Donc, cette réalité, c'est passe cette vie de ce dunya comme Allah te l'a demandé et meurs comme Allah te l'a demandé, parce que l'homme le plus heureux, c'est celui qui le jour de Qiyamah est invité à entrer dans le Jannah, et donc cette personne est protégée de l'enfer. Alors il y a deux façons, on va dire, il y a deux accès différents à l'enfer qu'Allah nous protège des deux. Il y a l'entrée en enfer le plus terrible, c'est pour celui qui n'a pas iman. Al-shirk, al-kufr, celui qui n'a pas la foi, la personne entre dans le jahannam pour l'éternité. Nasallallahu alayhi wa sallam wa al-afiyah. Innahu man yushrik billahi, celui qui associe à Allah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Allah a rendu le paradis haram pour lui. Wa ma'wahu an-nar, et sa destination c'est l'enfer. Qu'Allah nous protège de cette situation. L'autre accès, l'autre catégorie de personne qui va entrer au jahannam, J'ai bien dit le Jahannam, il me semble. Et des fois, Donc, première catégorie de personnes qui rentrent dans le Jahannam, ce sont ceux qui n'ont pas iman, et ce sera khuloud pour l'éternité qu'Allah nous protège. Deuxième catégorie de personnes qui entreront dans le Jahannam, dans l'enfer, ce seront ahlut tawhid, les gens qui ont la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans leur cœur, comme vous et moi, mais qui ont cumulé des péchés dans ce dunya. Et ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas fait les efforts pour obtenir le pardon divin de ce dunya, ce qui veut dire que quand on va les poser dans la tombe, on les met, on les installe dans la tombe avec ses péchés. Et ça, c'est la pire des choses, la pire, le pire des scénarios. Les savants disent, c'est que tu es posé dans la tombe et que tes péchés sont toujours avec toi. Les péchés qui étaient greffés de ton livret de compte quand tu avais 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 75 ans, et que tu es mort, tu as quitté ce dunya et tu n'as pas su demander tawba à Allah parce que c'était des péchés que tu faisais de façon permanente. Tu pensais demander tawba, mais tu n'étais pas sincère. Allah nous protège. Tu n'étais pas sincère dans ta demande de pardon. La personne est restée dans le zina ou la personne est restée dans l'intérêt. L'argent haram, les transactions qui sont illicites, appel de cœur à nos frères et ceux qui sont dans le commerce. Ne tombez pas dans le piège des emprunts bancaires et n'écoutez pas les discours déviants qui vous disent que le riba de nos jours, ce n'est plus le riba comme à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça reste de l'argent haram. Faisons extrêmement attention à tout ça parce que il ne faut surtout pas être enterré avec ses péchés. Parce que être enterré avec ses péchés, ça veut dire être, wallah musta'an, et ressuscité avec ses péchés. Et il y a cette catégorie de personnes qui ont la foi et qui ont fait le hajj, qui ont fait plein de bonnes choses, mais des péchés sont restés pour différentes raisons qui sont propres à chacun. Bien sûr, sans jamais porter de jugement. Mais ce sont des paroles générales, des réalités de l'au-delà, et Allah donnera aux anges de jeter ces gens dans l'enfer le temps de les purger de leurs péchés, qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège de ces deux catégories de personnes qui vont entrer en enfer, parce que même un instant, une seconde en enfer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer et qu'on ne doit souhaiter pour vraiment, vraiment pour personne. C'est là que ça me permet encore de faire, c'est parfois les mêmes choses qu'on répète, mais ce sont des réalités. On essaie d'accrocher nos discours à notre vie de 24 heures, à la réalité de notre vie. C'est que des fois, Allah nous éprouve par la maladie, par des problèmes, des graves problèmes. Des fois, sache qu'il y a une sagesse dedans. Comme on l'avait dit hier, mais c'est un rappel. Il se peut que les péchés que tu es en train de traîner là, tu n'arrives pas à demander tawba. Et qu'Allah t'envoie des épreuves pour que ces péchés-là soient effacés totalement de ton livret de compte afin que tu retournes vers ton Seigneur lavé de tes péchés. Et très honnêtement, très sincèrement, vaut mieux être lavé de ces péchés de ce dunya que d'être purifié de ces péchés le jour de Qiyamah par le biais du feu de l'enfer. Après, bien sûr, ça, ce sont des choses qu'Allah organise, qu'Allah prévoit. C'est de le taqdir. Personne ne doit demander à Allah des épreuves, bien sûr. Ce serait totalement incohérent de demander à Allah, envoie-moi des épreuves pour pardonner mes péchés. Non. Ce que l'être humain peut faire, ce que nous devons, là où nous pouvons et nous devons agir, c'est rester éloigné des péchés. Si jamais on a commis des péchés, taubatun nasuha, demander pardon à Allah sincèrement. Si malgré ça, ça n'a pas passé, c'est là que les épreuves vont nous aider à effacer ces péchés. Par contre, je tiens à préciser, à répéter, et insister sur un point, aucune taouba ne peut être validée quand il s'agit du mal qu'on a fait aux autres. Tant que c'est dans le droit d'Allah, je n'ai pas prié ou j'ai fait telle chose, d'accord ? J'ai regardé ce que je ne devais pas regarder, j'ai écouté ce que je ne devais pas écouter. Il peut s'agir d'une personne qui ne s'habille pas correctement, la tenue vestimentaire ne couvre pas son satar, et ainsi de suite, sa awra. C'est dans le droit d'Allah et Allah peut nous accorder son pardon quand on est sincère. Et puis les conditions du taubatun nasuha, du repentir sincère, seront citées peut-être inchallah dans d'autres versets. Cependant, s'il s'agit du mal que j'ai fait aux autres, voler, tricher, tromper, bohtan, médisance, accusation contre des gens, si j'ai été à l'origine d'une rupture au sein d'un couple, et ainsi de suite, pour ces péchés-là, tu peux passer toutes les nuits de la dernière décade en ibadah, tu peux aller au hajj tous les ans, chose qui n'est plus possible maintenant avec nous souk, Tu peux faire autant de bonnes actions que tu veux, tu peux rester accroché à la porte de la Kaaba pendant je ne sais combien de temps, tant que tu n'es pas parti voir ton frère ou ta sœur à qui tu as fait du mal, et tu as obtenu son pardon et tu as réparé le mal, il n'y a pas de tort. Ça, c'est toute la cohérence de notre religion. On revient au verset. Donc, celui qui est épargné du feu de l'enfer qui accède au Jannah, faqad faz, c'était traduit par assez réussi, et c'est ça la vraie réussite. Dans un autre verset, il est cité un de l'homme shaitan rajim, on a qu'on dara'na li jahannam kathiran min al-jinn wal-ins. C'est un verset qui nous donne des frissons, qui fait froid au dos. C'est Allah nous, j'ai pas la traduction sous les yeux, mais Allah nous informe que pour beaucoup de ins et de jinn, Allah a prédestiné l'enfer. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, qu'il y a plus de gens qui entrent en enfer que de gens qui entrent au paradis, qu'Allah nous protège. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont rentrés dans le tafsir d'un autre verset parallèle qui n'est pas à l'ordre du jour? Lahum qulubun ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des cœurs, le sens du verset, mais qui ne leur permet pas de réfléchir, des yeux qui ne leur permet pas de voir, c'est-à-dire de voir la vérité, des oreilles mais qui ne leur permettent pas d'entendre ce qu'il faut, c'est-à-dire le haqq. Et en finalité, quand quelqu'un utilise tous ses bienfaits uniquement pour assouvir ses passions, ses pulsions, pour vivre sa vie, comme ils disent, je kiffe my life, j'apprécie, et Allah musta'an, tu apprécies dans quoi? Dans l'adultère, le fait de sortir avec une jeune fille, une fille par mois, et tu changes de fille comme ça, Allah musta'an, tu abuses des gens, d'aller en boîte, boire, consommer, prendre des stupéfiants, manger des choses illicites, et dire tout ce que tu as envie de dire, regarder ce que tu as envie de regarder. Bien sûr, ce sont des choses, j'utilise beaucoup de guillemets pour ça, ce sont des choses plaisantes. Ce sont des choses que le nafs aime, parce que le nafs a été créé pour apprécier ce genre de choses. Et Shaitan nous fait voir ses péchés comme quelque chose de merveilleux et de magnifique. Mais en finalité, dans le fond, ce sont des péchés qui ne nous apportent rien. Bien sûr, spirituellement, on a bien compris, mais même sur le plan psychologique, ça peut apporter un plaisir éphémère, mais en finalité, c'est quelque chose qui ne nous remplit pas. Parce que la seule chose qui peut remplir les cœurs, qui peut apporter l'apaisement, le tawma'nina, c'est la pensée à la bidikrillah et tatma'innul quloub. Si vous me permettez une parenthèse, là on sort totalement du Qur'an de la Sunna, on va vers la littérature. Je ne sais plus si c'était Maupassant ou un autre auteur, j'ai un vague souvenir d'avoir étudié ce texte avec professeur donc en terminale, où il parlait justement de l'acte interdit. C'est-à-dire à une époque où il y avait encore de la retenue, il y avait encore un peu de pudeur, où la notion d'adultère existait dans la société française. Qu'est-ce qui existe encore en termes de notions et de valeurs? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et donc il parlait de d'une femme ou d'une jeune fille, peu importe, qui pensait à ce péché, qui pensait, il disait pas ce péché, mais qui voulait vraiment avoir des relations avec un homme, une vie de Maupassant. Ouais, c'est ça, une vie de Maupassant. Et quelle vie? Et donc, il dit que voilà comment est-ce que cette femme fantasmait sur l'acte, l'acte sexuel, comprenons, et que après l'acte, il est décrit dans l'ouvrage que la personne est restée recroquevillée, complètement attristée, et dit qu'en finalité, ce n'était qu'un plaisir éphémère et qui donne suite à tristesse, chagrin, mélancolie, ainsi de suite. C'est une approche, mais je veux dire que c'est une analyse humaine et psychologique qui, à mon sens, est intéressante, venant d'un grand auteur auquel nous devons connaître un peu, ça fait partie de notre culture, notre identité française qui est extrêmement importante. Donc, parenthèse fermée, voilà une analyse qui nous permet de comprendre que les péchés en finalité n'apportent rien de réel, vraiment des choses éphémères. Allez, on revient vers notre verset. Et donc, ces gens qui ont utilisé les bienfaits dans l'insouciance, mais en finalité, ils entrent au Jahannam, wa laqad dharana li Jahannam kathira min al-jinn wal-ins. Et à la fin de ce verset, justement, Allah Rabbul Izzah les compare à des animaux. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ils sont dans l'insouciance, dans la perdition totale, qu'Allah nous protège de cette perdition. Également, le grand bienfait de la foi, c'est que le jour de Qiyamah, Allez, permettez-moi un hadith. Un hadith pour nous montrer à quel point le Prophète voulait sauver sa Oumma et nous a donné toutes les pistes et les bonnes actions pour être protégé de l'enfer. Quand le Prophète dit Ittaqun nar wa la bishqi tamra, protégez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date, c'est-à-dire donne un morceau. Vous voyez la métaphore, comment elle est puissante. C'est pas, il faut, il n'y a pas besoin d'être riche pour donner l'aumône, mais même une date, ou si une date n'est pas suffisante, tu as besoin pour manger toi-même, mais un morceau. Ce qui veut dire qu'il y a deux leçons, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails du hadith, que le moindre sacrifice est apprécié par Allah, et il est toujours possible pour un être humain de faire, d'un point croyant, de se sacrifier pour son Seigneur à son niveau. Donc même en donnant une demi-date dans le chemin d'Allah à un pauvre qui en a besoin, c'est un moyen de se protéger du feu de l'enfer. Notre prophète voulait et veut du bien pour nous. Nous devons l'intégrer. Et nous devons avoir une approche remplie d'amour et de compassion quand on lit les hadiths, quand on entend parler du prophète, parce que c'était vraiment l'homme qui nous voulait le bien. On a eu l'occasion dans des discours du Ramadan, rappeler que le jour de Qiyama, quand le fameux nafsi, chacun regardera son intérêt, un homme, ou alors, allez, on va dire plutôt une femme, parce que souvent les dames qui ont beaucoup plus de reproches à faire aux messieurs, peut-être que les messieurs ont plus de tort aussi. Le jour des comptes, une femme n'hésitera pas à interpeller son Seigneur concernant un manquement de son mari, pour que Allah lui accorde un peu des récompenses de son mari qui aurait été injuste envers elle, afin qu'elle soit délivrée des difficultés de l'au-delà. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, il n'y a plus de lien de sang, de parenté, il n'y a plus rien. Même un père envers son fils, un enfant envers ses parents. Le seul qui sera là pour nous, qui va nous aimer, le seul être humain, comprenons, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, là je remonte, bon, finalement on ne va pas compléter ce verset, je remonte vers ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il y aura des croyants qui entreront au Jahannam à cause de leur péché, pour se faire purger, pour avoir leur péché purgé. Et là il y a un hadith qui est, je ne sais pas comment qualifier ce hadith, c'est le hadith de l'espoir, mais en même temps le hadith qui est choquant. Parce que le prophète dit que à la fin des comptes, c'est-à-dire bref, presque quand il n'y a plus personne à être jugé, le prophète et que les croyants seront déjà dans le Jannah, le prophète lui ne voudra pas entrer dans le Jannah tant qu'il y aura un membre de sa umma, de sa communauté qui est encore dans l'enfer. Et avec l'autorisation d'Allah, le prophète ira et entrera dans l'enfer. Et là on comprend que les lois physiques, les lois de l'au-delà ne sont pas nos lois physiques. Un feu de l'enfer peut brûler une personne et ne pas brûler une autre personne avec l'ordre d'Allah, comme c'est le cas du Prophète sallam qui avait visité l'enfer pendant le Mi'raj et qui ira dans l'enfer pour récupérer Ahlul Tawhid. Notez bien, il entrera dans le Jahannam pour récupérer les Ahlul Tawhid, pour les sauver. Sauver ceux qui avaient natum de la ilaha illallah de leur cœur, mais qui sont toujours dans le Jahannam à cause de leur péché. Et pourquoi? Ça, c'est l'espoir qu'aucun croyant ne restera éternellement dans l'enfer. Mais ça fait peur également, parce que combien de centaines de milliers d'années se sont passées jusqu'à la fin du jugement, et que la personne est toujours dans le Jahannam, quand Allah le protège. Et le prophète ira les chercher et les retirer du feu de l'enfer. Et le hadith décrit Qadim tuhishu. Ces gens-là seront brûlés, carbonisés, noircis, nasallallahu alayhi wa sallam, par le feu de l'enfer. Et avec rahma et shafaqa, le prophète va les amener vers le paradis, où il y aura un fleuve du paradis, ils vont se baigner pour retrouver leur beauté, leur éclat, et entrer au Jannah. Mais ne soyons pas ces personnes qui vont passer par l'enfer, qu'Allah, comme dans le protège. Donc c'était pour mettre en avant la grande rahma que le prophète avait pour sa umma. Hava. Et le jour des comptes, l'homme le plus heureux, c'est celui qui a reçu son livret de compte de la main droite, et il va dire « Ha umuqra'u kitabiyah » « Venez, lisez mon livre ». Ça, c'est la fierté de ce dunya. On ne doit pas être fier de quoi que ce soit. Mais de le jour de Qiyama, la fierté réelle, c'est celui qui reçoit son livret de compte de la main droite et qui a donc son accès au Jannah, et qui voudra que tout le monde vienne voir comment il a réussi son passage dans ce dunya. Et cette personne dira « Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya ». J'ai pas la traduction sous les yeux, mais j'étais persuadé que ce moment arrivera et que je passerai par cette étape de l'au-delà et les comptes, le sens du verset. À vous de relire le verset et de voir sa traduction. Les savants disent que cette personne va mettre en avant son iman, son yaqin qu'il avait sur la résurrection et sur les comptes, jour pour lequel il s'est préparé durant toute sa vie. Et ça, c'est l'homme vraiment intelligent. C'est cet homme-là qui est intelligent, qui durant toute sa vie œuvre pour la vie après la mort, qu'Allah nous accorde ses qualités. Et si on fait un parallèle avec un verset qu'on a cité en introduction, là on dit inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya, et dans l'autre verset concernant les gens qui entrent dans le Jahannam, il est conclu par ulaika humul ghafilun, eux ils étaient dans la perdition, dans l'égarement. Des gens qui vivaient côte à côte, dans le même pays, à la même époque de ce dunya, il y a un qui avait une pensée exclusive pour ce monde, sa réussite, ses plaisirs, son bonheur, et les péchés qui viennent avec, et l'autre qui vivait pour l'au-delà. Ils étaient voisins, ou peut-être même d'une même famille, et donc deux destins différents le jour des comptes, qu'Allah nous permet de prendre les bonnes décisions, et c'est pour ça que nous lisons au minimum, je ne sais plus au minimum combien. Je l'ai dit à 5 reprises, mais si on compte chaque rakat, je crois que ça arrive à 50, où on lit « Ihdina as-sirat al-mustaqim » dans la salat, en demandant à Allah de nous guider vers le droit chemin, qu'Allah nous guide. On va s'arrêter, il y avait d'autres points développés, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, alhamdulillah, rabbil izzati amma yasifun.